Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel. Cette semaine, on va faire le bilan culturel de cette année très très particulière avec ce matin. Une rencontre entre deux écrivaines qui ont marqué la rentrée littéraire. Fatima Das pour son premier roman La Petite Dernière et Faïza Ghen pour La Discrétion. Chacune à sa manière, les deux auteurs rendent hommage à leur mère et inscrivent dans la littérature française contemporaine le personnage ô combien romanesque de la mama arabe des banlieues françaises. Et en deuxième partie, on retrouvera Oriane Jeancourt du magazine Transfuge qui viendra nous parler des trois romans sortis en 2020 qui l'ont le plus marqué.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Dans un instant donc, la rencontre entre Fatima Das et Faïza Ghen. Faïza Ghen qui publie donc son huitième roman, La Discrétion. C'est édité par Plomb. Et ce roman dresse le portrait de Yamina Taleb, née en 1949 dans un petit village de l'Ouest algérien et qui connaîtra la guerre, puis l'exil en France. Yamina a 70 ans quand on ouvre La Discrétion. Elle sort rarement d'Aubervilliers. C'est une femme silencieuse qui fait semblant d'ignorer les remarques déplacées, les marques de mépris, la condescendance. Elle ne veut pas se laisser envahir par le ressentiment. Mais ses enfants français, trois filles et un garçon, n'aiment pas voir leur mère malmenée ainsi. Eux, ils savent qui elle est et ce qu'elle a traversé, et ils exigent que le monde entier le sache aussi. Extrait de La Discrétion, lue par l'auteur.
Yamina ne comprend pas pourquoi Brahim s'entête à vouloir endurcir Omar. À ses yeux, faire profiter ses enfants d'une vie agréable et facile les récompense de la pénibilité de leur propre vie. Sinon, à quoi bon avoir traversé tout ça? Est-ce qu'il faut qu'Omar descende à la mine et se retrouve la figure pleine de charbon pour prouver à son père qu'il est un homme? Les chauffeurs Uber d'aujourd'hui ne sont-ils pas les mineurs d'hier? Ne sont-ils pas comme leur père? Des travailleurs qu'on paye peu et qui font fructifier un système inégal et gourmand, ne sont-ils pas leurs dignes héritiers après tout? Malgré leurs études et les possibilités dont ils sont supposés bénéficier, ils conduisent des voitures à longueur de nuit, pour des salaires minables, dépendant de la sonnerie de l'application, qui ne cesse d'affoler leur cœur gâché, dépendant des notes et des commentaires de leur clientèle capricieuse.
La Discrétion, éditée par Plomb, de Faïza Ghen. Et maintenant, on passe à La Petite Dernière, premier roman très remarqué de Fatima Das, paru dans la collection Notabilia des éditions Noir sur Blanc, et qui se présente comme une suite de monologues ou les petites histoires d'une Française d'origine algérienne nommée Fatima Das, banlieusarde qui observe les comportements parisiens, lesbienne et musulmane pratiquante qui crie ce qu'elle est incapable de dire à haute voix à sa mère qu'elle aime par-dessus tout. Extrait de La Petite Dernière par l'auteur.
Je m'appelle Fatima. J'ai du mal à me défaire de l'idée je suis starbée. C'est pour ça que Madame Guérin me reçoit dans son salon. À chaque début de séance, Madame Guérin me demande si je veux boire quelque chose, si je n'ai pas froid, si je suis bien installée. Je fais attention de ne pas croiser les bras, de ne plus triturer d'objets, parce que je connais très bien le bordel, le langage corporel et tout le reste. Je l'affronte. J'ai un sourire stupide, genre, je vais pas te dire ce que tu veux entendre. Je lui relance les questions qu'elle me pose. Elle rétorque qu'on n'est pas là pour parler d'elle. Mais elle répond quand même à tout. Je bricole avec des émotions contradictoires. Ce que je raconte, c'est décousu, flou et troué de silence. Madame Guérin, elle prend son pied quand elle voit que je suis torturée, quand je me retiens de balancer sa table contre le mur, quand elle insiste pour me faire parler de ma mère.
C'était un extrait de La Petite Dernière, premier roman de Fatima Das, lu par elle-même. Fatima Das, vous êtes née en 1995. Et Faïza Ghen, vous êtes née en 1985. 10 ans vous séparent. Vous avez lu ce premier roman de Fatima Das. Quand je vous ai appelé cet été au téléphone, vous m'avez dit, je l'ai déjà lu.
Oui, absolument, je l'avais lu et j'ai adoré. Donc là, j'ai l'occasion de lui dire que j'ai beaucoup aimé ce livre et je le recommande vraiment à tout le monde. J'ai trouvé magnifique. Vraiment, vraiment, j'ai vraiment adoré.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre?
D'abord l'écriture en fait, c'est-à-dire le style, la manière de tellement puissante, je trouve, et en même temps hyper poétique, de dire des choses parfois brutales, ça m'a beaucoup plu, voilà. En premier lieu, j'ai envie de parler de l'écriture, quoi. Après, tous les sujets dont il est question dans le roman m'ont beaucoup touchée aussi. Mais voilà, c'est vraiment pour moi, quand j'ai commencé à lire, j'ai parcouru les premières lignes, je me suis dit, c'est vraiment, j'ai assisté à la... C'est vraiment, c'est un écrivain, c'est un auteur, vraiment, qui est déjà là, à la première ligne du roman.
Et Fatima Das, est-ce que vous aviez déjà lu les romans de Feyzaghen ?
J'avais pas lu, du coup, c'était mon premier aussi.
La discrétion, et alors ? Vous avez retrouvé peut-être ce thème qui est commun à vos deux romans, c'est-à-dire le portrait de la mère ?
Tout à fait, moi, j'ai trouvé beaucoup de similarités et de... Moi, il y a des passages qui m'ont beaucoup touchée et qui m'ont raconté une histoire, qui m'est aussi proche. Et notamment avec la figure de la mère qui est à la fois, dans le roman de Faïza, une mère forte, tendre, mais aussi très exigeante. Parfois un peu, je l'ai ressenti un peu comme quelqu'un qui doit cacher ses émotions, qui doit faire taire des choses. Et je crois que elle ressemble aussi à la mère de Fatima dans le roman.
J'ai l'impression, en passant d'un roman à l'autre, que là où il y avait beaucoup d'empathie, d'humour dans le style de Feyzaghen, pour parler de la famille, pour parler de la double culture, pour parler aussi des banlieues, vous, Fatima Das, vous êtes plutôt direct, comme si l'époque d'aujourd'hui est un peu plus dure que l'époque qui vous a lancé dans la littérature Feyzaghen. Vous avez cette impression ?
Alors que l'époque est devenue plus dure, certainement, mais...
Et que ça se ressent en passant de votre monde, Feyzaghen, au monde de Fatima Das.
Après, peut-être que la différence, c'est aussi qu'on n'a plus besoin d'avoir des paravents pour raconter des choses, parce qu'on ose plus les dire de manière frontale. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on aborde avec plus de liberté, parce que c'est vrai qu'à l'époque où j'ai commencé à écrire... Bah, on était peu déjà à raconter nos histoires, nos récits étaient quasiment inexistants, on était vraiment invisibles. Donc il y avait une sorte de politesse pour se raconter, peut-être étant mieux que cette politesse, elle est plus indispensable.
Politesse, Fatima Das.
Je rejoins complètement Faïza, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, quand il y a cette urgence d'écrire, de prendre la parole et de donner, de faire exister plusieurs identités, qu'on voit mais qui sont mal représentés ou pas par les principales concernées en fait. Et du coup, il y a quelque chose de l'urgence et je pense que c'est très important aujourd'hui qu'on écrive, qu'on mette en mots par des images, par de la musique, nos récits, nos propres récits.
Ça veut dire quoi, Fatima Das ? Nos propres récits spécifiques ?
Ben, ça veut dire parler de ce qui nous concerne à l'endroit, au bon endroit. Parce que souvent, on a grandi avec des représentations qui n'étaient pas les bonnes. Alors, on arrive à un moment où on se demande plus, en fait, si on est légitime d'écrire, si on a notre place. Moi, je me suis jamais posé la question de l'écriture. Je me suis jamais dit, est-ce que je suis légitime d'écrire ? Je me suis posé la question de la légitimité à plein d'autres endroits, mais pas dans l'écriture, et j'ai pas envie de me la poser.
Et vous, Feyzaghen ?
Bah, les 10 ans qui me séparent de Fatima, c'est les 10 ans qui ont été utiles pour moi pour régler cette question de légitimité. Je pense que c'est la question de ma génération, et tant mieux si la génération suivante ne se la pose plus. C'est parce qu'on se l'est posé tellement, en fait. Et en plus, pas de manière... c'est-à-dire que c'est même pas notre question. C'est une question qui nous est imposée. C'est-à-dire cette question, c'est une contrainte. Parce qu'en vrai, si vous me posez la question par rapport à l'écriture, c'est mon endroit, mais depuis toujours. C'est-à-dire qu'en vrai, spontanément, j'ai toujours écrit. C'était ma manière la plus naturelle de m'exprimer depuis ma plus tendre enfance. Et c'est quand j'ai commencé à publier que je me suis interrogée sur cet aspect de la légitimité.
Mais pour parler quand même d'une certaine France.
En fait, faut le dire, pour parler des Arabes, pour parler des Berbères, pour parler des Métèques, pour parler des pauvres. Et il faut le dire. Et en fait, justement, cette politesse, moi, je n'ai plus envie qu'elle soit justement un frein pour moi, c'est-à-dire que... Et je suis trop contente que nos récits existent et de dire nos récits. C'est-à-dire que de dégager complètement la question et, comment dire, la méfiance autour d'un pseudo-communautarisme qui serait comme un gros mot et qu'on n'aurait pas le droit de parler de nous parce que ça ferait qu'on se mettrait comme en ennemi et qu'on ne voudrait pas parler aux autres. Or que, bon, c'est important, quoi, que nos récits existent et on n'a même pas besoin de le dire. C'est même pas un sujet, c'est-à-dire qu'on fait pas des livres sur les Arabes, sur les pauvres et tout, c'est que ça existe, c'est, ça fait partie de nos mondes et de nos imaginaires et qu'on les emploie pour raconter ces histoires.
Fatima Das ?
J'arrête pas de hocher la tête parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Faïza. Et ouais, je pense que c'est très important que ça sorte de nous et qu'on ne se pose plus ces questions-là et qu'on aille au bout de ce qu'on a envie de dire, de ce qu'on a envie de faire et ne plus avoir à dire pardon, en fait, s'excuser d'exister, s'excuser de porter ces paroles-là.
Il y a beaucoup de mots en arabe qu'on retrouve dans votre premier roman, Fatima Das, la petite dernière, et de plus en plus dans vos romans, Faïza Ghen.
De plus en plus, là, parce qu'il est question justement de l'histoire d'une femme qui a 70 ans aujourd'hui, qui est une mère de famille.
La discrétion.
Et je balaye en fait son histoire de sa naissance en Algérie à aujourd'hui, sa vie à Aubervilliers de mère, voilà. Donc il y a aussi toute cette histoire de l'Algérie, et puis c'est elle, donc c'est sa voix, même si j'écris à la troisième personne, c'est sa voix, donc c'est ses mots, ce sont ses mots. Donc oui, il y a des mots en arabe, en effet.
Quand vous dites ce sont ces mots, c'est-à-dire que vous avez travaillé à partir d'une musicalité d'une langue, en reprenant les mots que vous entendez autour de vous, chez ces personnes-là, c'est-à-dire pour la plupart des mères d'enfants français, mais qui sont venus en tant qu'immigrés en France?
Bah, pour être honnête, en fait, j'ai travaillé sur ce personnage de la même manière que j'ai travaillé sur tous mes autres personnages dans tous mes romans, c'est-à-dire que j'entends la voix du personnage, et là, c'est sa voix à elle, et donc il y a ces mots-là. Après, bon, évidemment, moi, l'arabe, c'est ma langue maternelle, donc c'était pas compliqué pour moi. Et puis, je me suis inspirée de ma maman et d'autres mères, d'autres femmes pour décrire ce personnage. Donc, c'était pas difficile pour moi de l'entendre, cette voix. Elle était très proche.
Alors aujourd'hui, c'est quoi votre place, Faïza Ghen? Quand vous avez commencé, je sais que quand vous avez commencé, c'était avec Kif Kif Demain, on vous a plutôt bien accueilli, hein, il y a eu un véritable succès critique et en librairie. Et pour vous présenter, on a parlé, on vous a comparé à d'autres auteurs. La Françoise Sagan des banlieues, ouais. C'est resté.
Oui, c'est resté, à mon grand désespoir, parce que ouais. Ça fait quand même 16 ans. Après, bon, c'était une bonne formule, voilà, c'était une bonne formule de journaliste. En fait, je pense que le seul point commun, c'est que Sagan a publié son premier roman à 19 ans, comme moi. Ouais. Et c'était ça, mais bon, on m'a accueilli aussi d'une certaine façon, c'est-à-dire on m'a pas... J'étais dans les pages sociétés, ouais. C'est ça que je rappelle souvent. Donc c'était
et pas dans les pages littéraires.
Non, ni dans les pages culture des voilà. Mais donc c'était plus un phénomène, c'est-à-dire que moi, Kif Kif Demain, c'était un peu la Macarena de la littérature de l'époque. C'était le tube de l'été. Personne pensait me revoir un jour. Donc je suis très contente d'être là 16 ans après pour dire que c'est pas simplement un phénomène de société ce que j'ai écrit. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui me parlent de Kif Kif Demain comme de quelque chose qui leur a donné. Le sentiment que justement, ils avaient le droit de faire des choses, d'écrire, de faire des grandes études, etc. Et j'ai 16 ans de recul pour vous dire ça maintenant, quoi.
Et vous, Fatima Das?
Ben, je crains surtout qu'on ne me parle pas de ce que j'ai écrit. Enfin, de mon écriture, de la forme, des phrases, de ce qu'on en retient. Et qu'on parle de thèmes. Et qu'on en fasse, qu'on utilise ça à des endroits qui ne m'intéressent pas. Donc moi, j'ai juste envie qu'on parle d'écriture, en fait, et de littérature.
Pour terminer, puisqu'il y a la littérature, il y a l'écriture, mais est-ce qu'il y a une envie, chez vous, Faïza Ghen et Fatima Das, d'être témoin de votre époque, et témoin donc de l'évolution de la société française et du monde, Faïza Ghen?
Au sens où, en tout cas, moi, dans ma démarche, je me sens comme ça, c'est-à-dire, j'ai l'impression d'être un témoin, d'être dans une position un peu décalée, et d'avoir un outil extraordinaire qui me permet de justement de raconter ce que j'observe, etc. Donc oui, je me sens témoin surtout d'une époque qui disparaît. C'est-à-dire que, par exemple, là, le personnage de la mère, il y avait déjà dans ma littérature beaucoup de tendresse pour cette génération, pour les Chibani, etc. Et pour moi, c'est des gens qui sont en train de s'en aller et qui s'en vont sans avoir laissé forcément de traces. Donc il y a quelque chose qui m'anime, qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire que ces récits-là, en fait, sinon on les raconte pas, ils disparaissent. Donc il y a quelque chose pour moi qui est très important à ce niveau-là.
Et pour vous, Fatima Das?
Je pense que je dis quelque chose de mon époque et je raconte quelque chose qui n'a pas eu tellement sa place en littérature.
Rachita sur France Culture dans le Réveil Culturel. Et tout de suite après, on retrouvera Oriane Jeancourt qui nous parlera de ses coups de cœur littéraires pour l'année 2020. Les trois romans qu'elle nous recommande vivement. Et on retrouve Oriane Jeancourt, notre amie et notre partenaire du magazine Transfuge. Bonjour Oriane Jeancourt.
Bonjour tout de suite, bonjour à tous.
Et merci d'avoir répondu à notre question. Quels sont les trois romans marquants de l'année 2020 selon vous, Oriane Jeancourt?
Écoutez, c'était pas une question à laquelle il était facile de répondre, parce que si 2020, on peut le dire, a été assez catastrophique sur tous les plans, il ne l'a pas été sur le plan littéraire. Il y a eu de très bons livres et voilà, c'était une des rares sources de réjouissance à Transfuge. Alors mon premier coup de cœur est d'ailleurs paru en janvier 2020. Et c'était le nouveau livre de Constance Debré, donc cette écrivain française qui avait déjà fait parler d'elle avec deux livres précédents, toujours dans l'autofiction. Elle racontait comment est-ce que d'une vie assez banale, familiale, d'avocate parisienne, elle avait tout abandonné pour devenir une lesbienne, libre, écrivain, artiste. Eh bien, ce dernier livre, Love Me Tender, achevait ça et ouvrait une autre porte dans son travail, puisqu'elle nous racontait les relations qu'elle avait avec son fils aujourd'hui, des relations assez dramatiques d'ailleurs, avec son fils de 9-10 ans, aujourd'hui, alors qu'elle est devenue cette nouvelle femme libre, mais aussi cette nouvelle femme en proie au questionnement de son ancienne maternité. Donc j'ai trouvé que c'était un livre à la fois d'une force de style et d'une finesse psychologique très forte.
Un coup de cœur que nous avons partagé d'ailleurs ensemble dans le Réveil culturel, Love Me Tender de Constance Debré, c'est bien sûr édité chez Flammarion. Et votre deuxième coup de cœur, Oriane Jeancourt?
Alors mon deuxième coup de cœur, c'était à la rentrée. Pour moi, c'était vraiment le grand livre de la rentrée de septembre. Et c'était Apeirogone de Colm McCann. Alors, l'écrivain irlandais, bon, on le suit depuis longtemps, hein, c'est un grand nom de la littérature anglo-saxonne. Il avait déjà fait ce livre extraordinaire qui s'appelait The Dancer, sur Nureyev, enfin toujours. Il va chercher des sujets étonnants et il les tient avec une virtuosité romanesque assez sans pareil. Mais là, Apeirogone, d'abord d'un point de vue formel, il raconte 100 histoires en même temps, donc il faut le faire. Et puis, il nous fait vivre deux héros, un Palestinien, un Israélien, deux hommes qui existent, qui ont tous les deux perdu leur fille pendant le conflit et qui tous les deux se battent pour la paix. Donc on est vraiment face à deux très grands héros d'aujourd'hui, et Colm McCann voilà, réussit à les faire vivre dans un roman de manière époustouflante.
Donc je vais le prendre, le Apeirogone que j'avais pas eu le temps de lire, de Colm McCann, c'est édité chez Belfond. Et puis enfin, le troisième roman de votre top 3 2020 en littérature, Oriane Jeancourt.
Transfuge, on aime bien la littérature étrangère et donc voyager un peu. Et là, nous sommes un peu de retour en Europe. C'est Clément Fetz, un Autrichien, qui publie un livre qui est déjà, à mon avis, le meilleur titre de l'année, en tout cas le plus original. Ça s'appelle « La consolation des choses rondes ».
Effectivement.
Et ce sont des nouvelles qui nous racontent toujours, ce jeune écrivain de autrichien nous raconte toujours la solitude dans les grandes villes, la manière qu'ont les gens de trouver une consolation justement. Alors parfois ce sont des gens qui sortent de véritables tragédies, mais quelquefois ce sont des gens qui tout simplement peinent à trouver leur place dans la société, peinent à trouver leur place dans la ville, et donc vont chercher partout, même dans le goût des choses rondes. Il y a différents personnages. Il y a une histoire par exemple très forte d'une infirmière qui va enlever un enfant d'une école où elle travaille et puis elle va finalement le ramener. Mais on voit bien, on est avec cette femme dans cette éprouvante solitude et cette recherche insatiable de consolation. Et je trouve que, voilà, Clément Fett, c'est vraiment un des très grands écrivains de cette solitude d'aujourd'hui.
Voilà, c'est de saison. La consolation des choses rondes de Clément Fett, c'est chez Jacqueline Chambon, je crois.
Absolument.
Le Colm McCann à Apeirogone, c'est chez Belfond. Et le Love Me Tender de Constance Debré chez Flammarion. Il n'y a pas eu un seul des primés dans votre top 3, Oriane Jeancourt, vous avez...
Oui, alors je ne veux pas, j'aime bien ronchonner d'habitude sur les prix comme tout le monde, c'est un sport national, mais là je veux dire que nous avons un très beau concours. Et voilà,
j'ai été ravie
de cette anomalie. C'est vraiment un grand écrivain de fiction Et ça fait du bien en France de se dire qu'on est capable d'œuvres purement imaginaires. Comme ça, c'est même, on frôle le fantastique et la science-fiction. Voilà, normalement, ce sont des sports pas très français. Et voilà que tout d'un coup, Hervé Le Tellier vient nous dire que tout ça est possible en France et qu'il y a une réserve d'imaginaire très forte. Très contente de ce concours.
Et ben, nous aussi, à France Culture, on est plutôt contente de ce concours 2020. Et pourtant, en couverture du dernier Transfuge, qu'on peut déjà trouver en kiosque, le numéro de janvier 2021, c'est plutôt la littérature du réel, puisque c'est Yasmina Reza qui est en couverture.
Oui, la littérature du réel et surtout l'humour, parce que Yasmina Reza, voilà, c'est une de nos grands tragicomiques, grandes tragicomiques. Et là, elle quitte un temps le théâtre pour le roman et elle nous fait un roman familial, visiblement très personnel, sur deux frères et une sœur qui décident de faire un grand voyage sur les traces de leurs origines familiales. Et elle fait ça toujours avec, voilà, ce talent de nous faire rire et en même temps de nous faire penser le monde d'aujourd'hui.
Merci Auriane Jeancourt et bonne année à vous.
Mais bonne année à vous aussi, Toufik.
Et à bientôt.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Et merci de passer vos vacances d'hiver avec France Culture. On se retrouve, nous, demain, à la même heure, et on parlera des super-héros de la bande dessinée japonaise, les mangas. Vous connaissez les mangas, bien sûr, et même si vous en lisez pas autour de vous, tout le monde en lit. On en parle donc demain avec deux spécialistes. Passez une excellente matinée avec France Culture.